Les rangs sont beaucoup plus fournis que ce matin à 9h30 où c'était assez clairsemé. Quand je suis arrivé pour faire mes études à l'école biblique en Suisse, enfin avant cela, quand je travaillais en psychiatrie, j'étais aux réunions de service, j'étais systématiquement en retard. Enfin, au début, quand j'ai commencé le travail, j'étais toujours à l'heure. D'ailleurs, le chef de service m'avait félicité. Et puis finalement, après, j'étais systématiquement en retard. Parce que voilà, on a des choses à faire, on voit un patient juste avant, c'est très important, etc. Il y a toujours des choses très importantes. Et puis quand je suis arrivé donc à Libéto, où j'ai fait mes études, là, du coup, j'étais systématiquement en retard. Sauf que bah, ça ne s'est pas passé, ça s'est pas déroulé tout le long comme ça, parce qu'à chaque fois que j'étais en retard, il y avait un petit mot. Et au bout de, il y avait un avertissement. C'était sérieux, hein ? Et au bout de chaque avertissement, d'un total de temps d'avertissement, il y avait, ça comptait pour une absence. Et au bout de temps d'absence, ça faisait, enfin voilà, il y a tout un règlement, vous voyez ? Et ça m'a beaucoup appris. Au départ, franchement, ça me gonflait. Tu vois, c'est, on me prend pour un gamin, quoi. C'est super scolaire. Et en fait, ouais, voilà, il a fallu que j'arrive en Suisse pour apprendre ça. Et en fait, merci. Et en fait, le Seigneur m'a parlé derrière cela. Il m'a dit, mais quand tu arrives à l'heure, en fait, tu témoignes que tu respectes. Tu témoignes de ton respect. Tu peux faire du fait d'arriver à l'heure une manière d'aimer. Et vraiment, ça m'a parlé parce que du coup, c'était plus arriver à l'heure parce qu'il faut arriver à l'heure, mais c'est arriver à l'heure parce que, au travers de cela, je manifeste l'amour de Dieu. Voilà, je dis cela parce que c'est souvent ces derniers temps que les rangs sont encore clairsemés à 9h30. Nous commençons nos cultes à 9h30. Et il s'agit de, voilà, c'est pas, vous entendez bien ce que je dis, que nous puissions grandir aussi dans la patience les uns envers les autres. Et vous voyez, une petite chose comme ça, c'est une occasion aussi de laisser le Seigneur grandir en nous. Amen. Donc, je vous rends attentif à cela. Quand, je voulais vous commencer par vous parler de mon grand-père maternel. Mon grand-père était un fou de musique, un passionné de musique, particulièrement la musique classique. Et quand il avait une vingtaine d'années, il était même chanteur dans un petit groupe. Voilà, bref, la musique était sa passion. Et peu de temps avant qu'il décède, j'avais à ce moment-là 10 ans, il a demandé cette promesse à mes parents, de tenir cette promesse que chacun de ses petits-enfants puisse apprendre d'un instrument de musique. Voilà, c'était une promesse. Malheureusement, mes parents n'ont pas pu tenir cette promesse parce que qu'ils n'avaient pas les moyens, d'instruments de musique à chacun de leurs enfants. Et donc, du coup, j'ai jamais appris d'un instrument de musique. J'ai essayé à un moment la guitare, mais vu que c'était désastreux, j'ai vite abandonné. C'est une grâce pour vous aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé par la suite avec Estelle, quand nous avons eu nos 3 enfants et quand ils étaient en âge d'apprendre, nous avons tenu à ce qu'ils puissent apprendre, pas forcément d'un instrument de musique, mais au moins une activité artistique. Et c'est le cas avec Margot, qui fait de la danse, qui fait du dessin, Thibaut de la batterie, Alban de la guitare. Finalement, cette promesse prononcée des années en arrière, dont on aurait cru qu'elle ne se serait pas passée, qu'elle ne se serait pas accomplie, elle a pris des détours, mais elle a fini par s'accomplir. Dans une promesse, il y a 3 temps, en fait. Il y a le temps où on formule la promesse, il y a le chemin vers cette promesse qui peut prendre des détours, et il y a le temps de l'accomplissement de la promesse. Et puis aussi, et le temps de l'accomplissement de la promesse, c'est aussi une conquête parce qu'il va falloir que les enfants aussi, ils persévèrent dans cet apprentissage de l'instrument de musique ou de l'activité artistique. La Bible nous parle de promesses. Et c'est des promesses de la Bible, de la promesse qui est dans la Bible, dont que j'ai à cœur, dont j'ai à cœur de parler ce matin. Cette promesse dont Dieu nous parle, cette promesse que Dieu fait dans la Bible, elle prend diverses formes. Il y a différentes étapes. La première étape de cette promesse, par laquelle je vais commencer, c'est quand Dieu se présente à Moïse dans un buisson ardent. Il est dans cette flamme et là, il envoie Moïse vers le peuple avec cette promesse. Moïse se retrouve en Égypte pour dire à son peuple, de la part de Dieu, « Je vous ferai entrer dans le pays. » Tu peux mettre la première diapo, s'il te plaît. « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Et voilà avec quoi Moïse arrive devant le peuple. Une promesse qui est forte, une promesse qui est pleine d'espérance, une promesse qui est pleine de liberté, libératrice. Mais quand il arrive devant le peuple avec cette promesse, malgré la force de cette promesse, malgré que c'est un engagement de Dieu lui-même, c'est sa parole d'honneur, c'est pas accueilli. Il y a des résistances, il y a des réticences. On n'accueille pas Moïse. Et puis bon, finalement, quand on va voir Dieu agir, on va finir par commencer à y croire, à cette promesse, et puis ça va aboutir dans un premier temps à la libération d'Égypte. Et le peuple se retrouve dans le désert, à marcher jusqu'à cette terre promise, jusqu'à ce pays promis, jusqu'à cette promesse. Et on sait combien ça va être un périple pour les Israélites. Hein, si vous le relisez toute l'histoire, c'est un chemin. Il y a un chemin jusqu'à cette promesse. Il y a un chemin qui est fait de rébellion, de résistance, un chemin qui est fait de déchirement, un chemin qui est fait de tension, un chemin qui est fait de douleur. Il y a tout ça. Et en même temps, il n'y a pas que ça. C'est un chemin aussi qui est fait d'acceptation, un chemin qui est fait de moments d'unité, un chemin qui est fait de rassemblement, un chemin qui est fait de joie quand on voit l'action du Seigneur, quand on voit Dieu intervenir. Jusqu'à ce que finalement, cette promesse finisse par s'accomplir, commencer en tout cas à s'accomplir sous Josué, avec qui la conquête de Canaan va commencer, jusqu'à ce que cette conquête soit définitive, dans un premier temps en tout cas, sous le règne de David, parce qu'après, le peuple d'Israël va être exilé de nouveau, puis il va revenir sur sa terre, mais sous occupation, puis il va être de nouveau dispersé dans les nations, et puis là, en 1948, il revient sur sa terre, et on espère que c'est définitif. Il y a une promesse qui est faite, un chemin vers cette promesse et l'accomplissement de cette promesse. Une première étape de la première promesse de Dieu. Et maintenant, on va faire un bond 1500 ans plus tard, après Moïse, et nous nous retrouvons avec les premiers disciples de Jésus, ceux qui ont été témoins de sa résurrection. Ils sont 120. Et ils se sont tenus dans la prière. Et là, ils se retrouvent dans le temple de Jérusalem. Et comme Dieu l'a promis, ils sont visités par Dieu, visités par le Saint-Esprit. Et c'est un moment tellement puissant. Tu peux mettre la prochaine diapo. C'est une nouvelle étape de la promesse. Et Pierre vient donner une nouvelle révélation par rapport à cette promesse. Ensuite, donc il parle de Jésus. Ensuite, Jésus a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur vous. Et il l'a répandu sur nous, sur vous aussi. C'est là ce que vous voyez et entendez. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soit pardonné. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Voilà ce que vient nous dire Pierre. La promesse, c'est l'Esprit de Dieu. Et quelle promesse ? C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Et il y a eu un chemin, de nouveau, il y a eu un chemin jusqu'à cette promesse. Cette promesse qui est l'accomplissement de prophéties dans les Écritures hébraïques, l'accomplissement de la prophétie de Jérémie qui au travers de qui Dieu y promettait que sa loi serait écrite dans les cœurs. L'accomplissement aussi d'une prophétie d'Ézéchiel qui disait que Dieu enverrait un esprit, donnerait un esprit nouveau. L'accomplissement de la prophétie de Joël aussi, qui promettait que cet esprit donnerait aux vieillards des songes, aux jeunes gens des visions, que tous prophétiseraient dans le nom de Dieu. Et c'était tout cet accomplissement-là que les disciples sont en train de voir. Ça y est, enfin, Dieu vient les habiter eux-mêmes avec son esprit. Et je disais, il y a eu un chemin, il y a eu un chemin jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Et quel chemin ? Ce chemin, ça a été Jésus. Ce chemin, ça a été Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, 6. Un chemin qui a été fait de douleur. Un chemin qui a été fait de peine, de combat, d'adversité, de trahison, d'abandon par le Père lui-même. Pour que cette promesse s'accomplisse, il a fallu que Jésus aille jusqu'à vivre cet abandon de Dieu lui-même. Mais Jésus a compté toujours sur Dieu. À aucun moment, il n'a même pas compté sur lui-même. Jésus n'a même pas compté sur lui-même. Jusque dans cet abandon, il a compté sur l'amour de Dieu. Et il est ressuscité. Il est ressuscité et l'Esprit a été répandu. Un chemin qui a été fait de tout ça, mais un chemin aussi de joie. Un chemin de réjouissance. La joie de voir des personnes accepter leur Messie, le recevoir en tant que Dieu. La joie de voir l'Esprit agir au travers de guérison, de délivrance, de voir des gens donner leur vie à Dieu. Un chemin qui a été fait aussi de moments d'unité, de rassemblement, de solidarité face à l'adversité. Un chemin de victoire. Il y a eu tout ça dans ce chemin qui a conduit jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Venons maintenant dans un troisième temps de cette promesse, une troisième étape. Prochaine diapo. 2000 ans après, l'Église a 2000 ans d'histoire. Et l'Église, elle aussi, elle attend une promesse qui est la suite de cette promesse de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Église attend ? L'Église, elle attend cette plénitude de Dieu. C'est ça qui nous est promis, de vivre dans la plénitude de Dieu. C'est tout ce que ça vous fait. Cette plénitude de Dieu. L'Église, elle attend que son Seigneur, son Sauveur, vienne la chercher pour être enlevée de terre vers lui, jusque dans les cieux, et ensuite régner dans ce monde qui sera renouvelé. Comme nous-mêmes, nous serons renouvelés, complètement, complètement habités de l'Esprit. Plus de tension en nous, plus de douleur, plus de peine, la paix, la joie totale. Alléluia!
C'est cela la promesse que l'Église attend. Et là encore, il y a un chemin. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit ce qu'a été ce chemin qui n'est pas terminé. Un chemin fait de déchirements, un chemin fait de combats, de persécutions, un chemin fait d'incompréhension, de malentendus, de tensions, de divisions, de déchirements. Mais un chemin aussi fait de l'intervention de Dieu, un chemin fait de moments de grâce, un chemin fait de réveil, un chemin fait d'amour, un chemin fait d'unité. Il y a eu tout ça dans ce chemin. Oui, qu'est-ce que l'Église a pu se déchirer sur diverses choses, notamment sur ce qui concerne la fin des temps. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que on voit ça sur Internet en ce moment, on l'a entendu dans notre Église aussi. Il y a ce qui s'est passé hier dans le ciel, hier le 23 septembre, où il y a eu, selon certains, tous ne sont pas d'accord, même au niveau astronomique, selon certains, un alignement de planètes, de la Lune, de Jupiter, qui est dans le ventre de la constellation de la Vierge, avec au-dessus le Soleil, et puis avec au-dessus une couronne d'étoiles, avec les 9 étoiles de la constellation du Lion, et puis on y rajoute 3 planètes dans les parages, Mars, Vénus et puis Saturne, je crois, et ça fait 12 étoiles. Et pour certains, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 12.1 qui dit que la Vierge enfantera l'enfant, qu'elle aura la lune sous ses pieds, le soleil au-dessus et une couronne de 12 étoiles. Alors, quelle valeur on prête à cela? Bien sûr, l'Église s'est déchirée sur des choses comme ça. Jésus dit aux pharisiens, observez, vous observez les signes dans le ciel, mais vous ne recevez pas les signes des temps. Et là, il parlait de quoi? Il parlait du signe qu'il est lui, Jésus le Messie. C'est lui le signe le plus important. Après, il y a une chose qui est vraie, qui est indéniable, c'est que Jésus revient. Alors, quelle que soit la valeur que l'on prête à cela, à ces signes, quelle que soit la conviction que l'on y met, c'est quoi le plus important? C'est Jésus, mais le fait est que Jésus y revient et qu'il dit « veillez et priez ». Et effectivement, toutes ces choses-là posent quand même une question. Donc, comment est-ce que je me prépare à rencontrer mon Seigneur? Comment est-ce que je me prépare à rencontrer mon Seigneur? Et ça pose une foule de questions. C'est quoi ma relation avec Dieu? À qui je m'attends? Qu'est-ce qui me motive dans la préparation de cette rencontre? Est-ce que c'est un rapport de peur avec Dieu? Ou je m'attends à recevoir une correction? Parce que bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Ou est-ce que c'est un rapport d'amour? Est-ce que je m'attends à un père de grâce, d'amour? On peut avoir besoin peut-être d'une peur pour apprendre à respecter Dieu. Mais comment est-ce qu'on obéit à Dieu? Qu'est-ce qui nous motive pour obéir à Dieu? Est-ce que j'obéis par peur ou est-ce que j'obéis par amour? Qu'est-ce que ça veut dire veiller et prier? Moi, je crois que c'est cultiver cet amour de Dieu, cultiver cette vie de l'esprit. Il s'agit de respecter Dieu. Il s'agit de regarder nos vies. Il s'agit de marcher droit le plus possible. Mais c'est parce que l'on se sent aimé par Dieu et parce que l'on grandit dans l'amour de lui qu'on y arrive. Et cet amour ne vient pas de nous. Il vient de Dieu. Il vient de l'esprit. Je suis peut-être un petit peu écarté, quoique. Alors, je parlais de chemin. Où est-ce que nous en sommes dans ce chemin? Chacun, chacune déjà. Où est-ce que tu en es sur ce chemin? Est-ce que tu as accueilli déjà Jésus dans ta vie? Jésus, il connaît ta vie, même si tu ne lui as pas donné. Il sait ce que tu traverses. Il sait quels sont tes combats. Il sait quels sont tes défis. Et il veut veiller sur toi. Et il veut que tu puisses traverser cela avec lui. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Pour que toi, tu n'aies pas à vivre cette mort. Cette mort qui se manifeste déjà au travers des déchirements, des divisions, des tensions, de l'adversité. Mais Jésus, il est venu pour que tu puisses traverser cela avec lui et vivre la paix qu'il t'offre. La paix dès maintenant. La joie dès maintenant. En tout cas, les prémices de cette paix, de cette joie qui seront totales quand Jésus reviendra. Il te l'offre et que tu puisses lui donner ta vie ce matin. Tu puisses lui donner ta vie. Et où en sommes-nous en tant qu'Église? Où en sommes-nous en tant qu'Église sur ce chemin? Alors, je parlais de nos vies personnelles. Il y a aussi nos vies de couple, nos vies familiales. Tout cela, et puis en particulier dans une Église, effectivement, il y a un chemin. Ça ne se fait pas sans tension, ça ne se fait pas sans incompréhension, ça ne se fait pas sans choses qui vont nous tirailler. Mais pourquoi il raconte ça, celui-là? Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne se fait pas sans tout cela. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Et il n'y a pas que ça dans ce chemin. Il y a aussi toutes les joies que l'on peut vivre ensemble. Il y a aussi tout cet amour de Dieu qu'on peut cultiver. Il y a cette joie de voir Dieu intervenir, cette grâce de le voir intervenir. Et il est intervenu dans toutes les siècles de cette Église, mais dans toutes les années de cette Église. Il est intervenu. Veillez et priez. La question, je crois, qui nous est posée aussi par le Seigneur, c'est que faisons-nous alors de ces tensions? Que faisons-nous de ce qui pourrait nous diviser? Oui, nous entrons aussi dans une nouvelle saison dans cette Église. Et ce n'est pas sans susciter des craintes. Il y a des décisions qui sont prises, ce n'est pas sans susciter des incompréhensions. Mais nous suivons tous le même but. Nous suivons tous le même but. Nous aspirons tous à la même promesse. Comment est-ce que nous allons marcher ensemble vers cette promesse malgré ce qui pourrait nous diviser? En étant rassemblés fort justement de ce que Dieu amène, de ce que Dieu fait dans cette vie. Dans ce chemin vers cette promesse, il y a ces deux aspects. Il y a cet aspect de combat, cet aspect d'adversité, et il y a cet aspect de victoire. Les deux sont là. Ça fait partie du chemin. Et c'est justement au travers de cela, à partir de tout cela, que Dieu se révèle, que l'Esprit se manifeste. Déjà, parce qu'il est, nous en avons les prémices. Les prémices, ce sont les premiers fruits d'une moisson. Nous en avons les prémices, nous avons cette promesse. Le Saint-Esprit veut intervenir. Il y a une terre promise pour notre Église. Il y a, bien sûr, cette terre promise à laquelle toute l'Église s'attend, le retour de Jésus, la plénitude de Dieu. Il y a cette terre promise. Mais cette terre promise, elle vient prendre différents visages, des formes spécifiques, des étapes spécifiques aussi, selon chacun qui on est déjà dans notre vie, dans nos couples, dans nos familles. et aussi des formes spécifiques pour cette Église. Dieu a des étapes précises pour nous amener jusqu'à cette terre promise. Il y a des oasis, il y a différents endroits, dans ce qui peut être la traversée d'un désert aussi, des endroits de ressourcement. Et c'est vers cela qu'il nous appelle à aller ensemble, unis, en utilisant toutes ces choses aussi qui peuvent nous tirailler, en nous en servant pour grandir dans son amour. Alors que ce matin, nous puissions avancer sur ce même chemin. Vous voyez, je n'ai pas du tout dit les choses dans l'ordre où je pensais. Mais ce n'est pas grave. Dans quelle mesure je suis prêt à accueillir l'Esprit ce matin? Dans quelle mesure tu es prêt à accueillir cet Esprit de Dieu? Déjà toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, est-ce que tu es prêt à accueillir, est-ce que tu veux accueillir son esprit qu'il t'a donné, la personne de Dieu en toi? Si tu as déjà fait ce pas, pour ceux qui ont déjà fait ce pas, dans quelle mesure nous sommes prêts à accueillir encore plus de cet esprit qui vient des fois nous déranger, même mais souvent, ce n'est pas toujours, nous déranger dans ce que nous sommes ou ce qui a besoin de bouger? Dans quelle mesure tu es prêt à accueillir cet esprit? Est-ce que tu as déjà vécu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? Cette plénitude de l'esprit. Dans quelle mesure, si tu ne l'as pas vécu, dans quelle mesure tu veux le recevoir? Ce matin, on peut prier pour tout cela. Amen. Et pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, Dieu n'a pas qu'un baptême. Cette plénitude de l'Esprit, ces moments de visitation de l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit, Dieu désire que nous y aspirions tout au long de notre vie. Et on peut les vivre, ces moments de plénitude. D'un instant. Et en même temps, il n'y a pas que ces moments de plénitude. Le Saint-Esprit agit et nous remplit aussi progressivement et vient changer notre cœur, dans quelle mesure j'y crois? Je vois l'heure qui s'avance. Je pense que ce serait important que l'on prie. On va rentrer dans la Sainte Cène, et au moment de la Sainte Cène, on va y aller avec ces moments de prière. Il y a peut-être des personnes, s'il y a des personnes parmi vous qui veulent recevoir la prière, qui veulent que l'on prie pour eux spécialement, soit parce que vous voulez donner votre vie à Jésus, eh bien, avancez-vous. S'il y a des personnes qui veulent recevoir de cet esprit, qui n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit, avancez-vous. S'il y a des personnes qui veulent recevoir encore plus de l'Esprit, qui ont été baptisées de l'Esprit, qui veulent recevoir encore plus de l'Esprit, avancez-vous. Et puis s'il y a des personnes qui ne le souhaitent pas, si vous voulez rester à votre place et prier seul, il n'y a pas de souci, faites-le. Si vous voulez prier avec votre voisin, votre voisine, prier en petit groupe, si c'est comme ça que vous voulez vivre, allez-y. Et puis s'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, si vous n'êtes pas à l'aise, ben, si vous souhaitez vous joindre à un groupe sans forcément élever la voix, sans prier, il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Nous puissions vivre tout cela dans la liberté. Alors on va en rentrer dans ce temps de Sainte-Cène, et c'est dans ce temps de Sainte-Cène que nous allons vivre cela. Amen.